Aujourd'hui, comment prévenir les violences sexuelles commises sur les enfants ?
Être et savoir, Louise Touret.
Demain, 13 janvier, s'ouvre à Lyon le procès du père Préna. L'ancien aumônier scout sera jugé pour atteinte sexuelle sur des mineurs de moins de 15 ans commises par une personne ayant autorité. C'est l'affaire à laquelle François Ozon a consacré le film « Grâce à Dieu ». Et ce procès arrive à un moment où le sujet fait la une. Depuis l'annonce même avant la parution du livre de Vanessa Springora, Le consentement, et la remise en cause de la bienveillance et l'indifférence aussi, longtemps accordée à Gabriel Matzneff. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à nous interroger sur la manière dont nous parlons de pédocriminalité, à la fois dans la société, mais aussi dans le cercle familial ou à l'école, quand les enfants posent des questions ou dans l'optique de les protéger des agressions sexuelles. La prédation, les dangers que peuvent courir les enfants, c'est déjà le sujet du Petit Chaperon Rouge. Et avec nos invités, évidemment, nous allons évoquer le rôle des contes, des livres jeunesse pour aborder ces questions. Mais l'affaire Matzneff et même d'autres avant nous montrent que parler et savoir ne suffit pas pour que les victimes soient protégées. C'est par exemple notre manière d'écouter les enfants, la vision de ce qui constitue une atteinte sexuelle ou un véritable consentement qui doit et doit profondément être interrogé pour changer un véritable travail collectif d'éducation. U2 Diego Aclopez est à la prise de son aujourd'hui et c'est Philippe Baudouin qui réalise Être et Savoir. Avril Ventura a préparé cette émission avec moi et elle s'occupe de notre page sur franceculture.fr. N'hésitez pas à dérouler la bibliographie présentée sur le site. Elle est tout spécialement étoffée aujourd'hui avec de nombreuses idées de lecture, guides, BD, romans pour le jeune public sur le thème du consentement et de la sexualité. Enfin, la leçon de choses en fin d'émission, la leçon de choses de Sophie Bobert sera consacrée à Jacques Ferrandez, un auteur de BD, auteur du Chant du Monde qui vient de paraître chez Gallimard d'après l'œuvre de Jean Giono à l'occasion du cinquantenaire de la mort de l'écrivain. Et je salue sans plus tarder les invités d'Être et Savoir aujourd'hui. Delphine Solière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice des magazines Enfance chez Bayard. Vous êtes co-autrice avec Gwenaëlle Boulet, d'ailleurs, nous l'avons déjà reçue ici, du livret Stop aux violences sexuelles faites aux enfants. C'est aussi le titre d'un livre un petit peu plus long que le livret paru chez Bayard. Mélanie Dupont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue à l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel Dieu et présidente de l'association Centre de Victimologie pour mineurs. Donc vous avez beaucoup de choses à nous raconter sur la prévention. Gabrielle Tulou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de lettres en Seine-Saint-Denis, championne de France de slam en 2010 et autrice, notamment d'un livre qui va paraître, qui vient tout juste de paraître, quand je l'ai eu entre les mains, il en est paraître. Sauf que c'était des enfants, c'est chez Philippe Ray, et ça traite aussi des violences sexuelles entre adolescents au collège. Des violences aussi qu'on cherche à prévenir et dont on cherche à parler aux éducateurs. C'est une partie du travail du CRIAS. Bonjour Sébastien Brochot.
Bonjour Louise.
J'étais contente de ma transition. Alors du coup, j'ai buté sur votre nom. Alors le CRIAS, c'est le centre ressources pour intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles. Le vôtre, c'est celui d'Île-de-France. Je m'y suis rendue bien mercredi. C'était pour rencontrer un petit peu toute l'équipe, une équipe donc qui a pris place dans des locaux dans l'hôpital de Saint-Maurice, c'est tout près de Paris. Des locaux, alors c'est très très convivial et on m'y a expliqué en quoi consistent les actions développées par cette structure. Et puis aussi, il y a une alerte qui est lancée, vous allez l'entendre par les psychiatres et psychologues, c'est une alerte sur la manière dont nous parlons de ces sujets et cette tendance à enfermer le réel dans des stéréotypes de victimes et de prédateurs. Alors, on y va ? Donc, on est au CRIAFS, c'est
comme ça qu'on dit ? Alors, le CRIAFS Île-de-France, c'est un acronyme qui n'est pas très agréable à entendre. Et puis, quand on le déroule, ça fait un peu flipper. C'est le centre ressources pour intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles. Alors là, c'est l'antenne d'Île-de-France. On s'occupe de Paris et d'une partie de la région parisienne. C'est un service public. On est au sein des hôpitaux de Saint-Maurice, près de Paris. Alors là, on a la salle de réunion. Là, on a le bureau de notre responsable et le mien à côté, et puis avec toute ma bibliothèque de support de prévention. Ça, c'est l'espace ressources prévention. Alors, il y a des bouquins pour les ados, pour les enfants, pour les tout-petits aussi, parce qu'on peut faire de la prévention avec des tout-petits en maternelle et même avant la maternelle. Il y a plein de jeux aussi. Là, par exemple, ça, c'est le kit qui est utilisé par la police ou la gendarmerie pour interroger les enfants qui peuvent avoir été victimes de violences sexuelles. Là, c'est des jeux que j'ai achetés aux Pays-Bas, parce que les Pays-Bas sont assez en avance en termes d'éducation sexuelle et affective, et ils font des jeux qui sont absolument géniaux. Ils les ont tous traduits en anglais, ce qui est quand même très pratique.
Voilà, désir et limite dans la vie intime. Je ne sais pas si c'est bien traduit. Girl's choice.
Ouais, il y a celui-ci, Love is all around, pour les ados. Là, c'est un des jeux de cartes. Et puis il y a plein de jeux, alors là, ceux-là sont en français, sur les émotions. Parce que la verbalisation des émotions, évidemment, c'est un élément clé de la prévention des violences sexuelles auprès des enfants et des ados. Et puis là, on a notre salon, qui fait aussi office de salle de réunion. Et c'est un peu la pièce à vivre. Hein, dans laquelle on se retrouve pour avoir des conversations, soit des réunions de service, soit des espaces de temps de parole sur des sujets. Voilà, par exemple, le mois prochain, on va faire un temps de parole sur le porno.
Sur les violences sexuelles comme sur les autres types de phénomènes, on distingue trois types
William
de prévention. Il y a
Albarradi.
prévention primaire, secondaire et tertiaire. Tertiaire, c'est éviter que le phénomène, une fois qu'il est finalement repéré, se reproduisent. Donc la stigmatisation, la violence, etc. Enfin, que des gens qui stigmatisent un enfant, on arrête cette histoire-là dans le harcèlement pour éviter que ça se reproduise ailleurs. Ça, c'est de la tertiaire. La secondaire, c'est presque le dépistage sur la question des violences. Ça va être finalement, bah oui, si vous voyez ça, signalez-le pour que ça s'arrête et pour éviter aussi que les effets par exemple, du harcèlement ou des violences sexuelles, etc., s'aggravent. La prévention primaire, c'est pour éviter que le phénomène arrive au départ. Et donc, et sur la question des agressions sexuelles, la prévention primaire, elle est très très large en fait. Elle est finalement d'apprendre à l'autre, d'apprendre l'autre dans les relations. Alors d'ailleurs, que ce soit en position de victime ou en position d'auteur, il s'agit d'apprendre à des enfants à dire non. Alors il ne s'agit pas de dire que toute la prévention des agressions sexuelles doit porter sur les enfants, mais il faut pas, enfin par exemple, on milite pour, par exemple, que le gros bisou sur la joue baveux, le gros bisou baveux. Sur la joue de l'enfant, de tante Henriette que l'enfant veut pas, bah l'enfant il a le droit de dire non en fait. Il a le droit de dire qu'il n'a pas envie du bisou baveux parce que s'il n'apprend pas à dire non à des choses qui ne lui font pas plaisir au début, et ben quand il y a des choses qui vont lui paraître atypiques, il ne pourra pas dire non. Ça fait partie de la prévention primaire aussi. Alors c'est pas de se défendre juste en tant que victime, bon, pas de victime, mais ça fait partie d'un apprentissage de l'autre. Et puis c'est aussi, je fais pas un gros bisou baveux à l'autre. Aussi, voilà. Ça aussi, c'est de la prévention, c'est apprendre l'autre. D'apprendre à son enfant que quand l'autre veut pas jouer avec toi, tu le forces pas en fait. Voilà. Même si tu es mon enfant chéri, bah, il faut que tu apprennes à ce que quand je suis pas disponible, je suis pas disponible pour toi, quoi. Et que tu t'arrêtes avec ça. Parce que si tu peux pas arrêter parce que tu as une envie et que je dois absolument répondre immédiatement à la chose, bah, quand tu auras des envies, tu les satisferas immédiatement et que tu ne feras pas attention à l'autre. Je crois que si on veut travailler sur la question de la prévention, il faut aussi arrêter de penser qu'il y a les gentils et les méchants, en fait, parce que d'abord, les méchants sont parfois très gentils, ou en apparence de très gentils, et puis les gentils, parfois, ils font des choses méchantes. C'est la vie, ça. Ils font des choses gentilles, puis parfois, ils font des trucs méchants. C'est les gens, en fait. C'est un peu comme ça que ça marche. Et je crois qu'il faut faire attention à cette séparation, à cette voilà, qui est très tentante, hein. C'est-à-dire que je suis du côté des victimes, je suis du côté des gens bien, et les gens, le monde me veut du mal, en fait. M'empêche d'évoluer et d'être dans ma toute-puissance, et que c'est de sa faute. Peut-être c'est un peu plus compliqué que ça, en fait. L'horreur, enfin, y a plusieurs grands stéréotypes qui sont particulièrement négatifs pour nous. Les termes de prédateurs sexuels, etc. Alors, bien sûr qu'il y a un pourcentage infime de types qui sont des sales types, des sales personnes qui ont des volontés de nuire à l'autre et de leur faire du mal, etc. Mais la grande majorité des agressions sexuelles sont, si elles ne sont pas des maladresses, en particulier d'ailleurs à partir d'adolescents, 45% des agressions sexuelles environ de mineurs ont lieu, mais de la part d'autres mineurs en fait. L'autre chose, c'est que ça empêche tout à chacun de penser que qu'autour de soi et que ses propres attitudes, elles peuvent être intrusives, elles peuvent être agressives pour l'autre. Puisque l'agresseur sexuel, c'est une sorte de type baveux avec une sexualité débordante qui se cache derrière les arbres, qui saute sur les gens, une sorte de grand méchant loup, eh ben c'est pas moi. Et puis c'est pas forcément le grand frère, c'est pas le cousin qui va faire du mal à mon enfant, c'est pas mon enfant, c'est pas l'oncle, c'est pas mon conjoint, c'est pas ma conjointe, et donc je me pose pas de questions. Et ça c'est assez finalement négatif dans l'histoire.
La sexualité des enfants, elle dérange encore beaucoup les adultes et c'est compliqué d'en parler.
Alice
Chenu. Et on se rend compte, voilà, qu'est-ce qu'on entend par sexualité des enfants ? C'est pas la même sexualité que celle des adultes et on s'autorise pas, même au niveau de l'éducation nationale, c'est parler de sexualité aux enfants, c'est compliqué. Et en plus, comme on n'est pas formé à ça, on en parle pas. Parfois mal, et du coup, effectivement, ça renforce l'idée que ça génère du traumatisme, parce qu'effectivement, si on en parle mal, ben, c'est pas forcément la meilleure option. Et finalement, enfin, nous, dans les interventions qu'on peut faire sur les terrains, on se rend compte que souvent, les professionnels, ben, dans le doute, ils en parlent pas, parce qu'ils auraient peur, justement, de passer pour des pervers ou d'être mal vus, et puis ça, ils sont très démunis, ils savent pas comment en parler, et ça amène à ce qu'il y a des enfants qui ont des comportements sexuels problématiques, qui appellent à l'aide sur la dimension du sexuel. Par exemple, des enfants qui passent leur journée à se masturber ou des enfants qui vont être en difficulté autour de leur sexualité. Ben, les professionnels vont avoir du mal à aider ces enfants parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et souvent, ben, ils ne vont rien faire parce qu'ils ne vont pas trop regarder ce qui se passe ou faire comme si ça n'existait pas parce que c'est tabou, en fait. Là où, d'expérience, ces enfants, en fait, ils auraient besoin d'aide et pour que leurs problèmes puissent être traités, ça serait bien qu'ils puissent en parler de sexualité avec leurs mots à eux, avec des contenus qui sont adaptés à leur âge, à leur maturité, à leur développement, que ça puisse répondre à leurs questions. Mais quand un enfant se demande comment on fait les bébés, est-ce que je suis une fille ou un garçon, en fait, il se pose des questions qui sont déjà d'ordre sexuel. Est-ce que ça me fait plaisir quand on me donne la main ou est-ce que ça me fait pas plaisir ? Toutes ces questions-là, c'est des questions d'ordre sexuel. Et déjà, finalement, la question du consentement, la question de éventuellement parfois, il y a beaucoup de plaisir et éventuellement parfois, il y a aussi du déplaisir, voire des agressions. On peut déjà poser les jalons de ce dialogue autour de ça, tout petit en fait.
Et le CRIAFS publie des supports de documentation comme celui-ci, les comportements sexuels des enfants, quels comportements sont problématiques, que faire. Sébastien Brochot, vous me confirmez que c'est un des guides les plus demandés.
Oui, effectivement. Alors ça, on l'a créé suite à une visite dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance, parce qu'il nous disait, oui, on ne sait pas trop si c'est problématique. Il y a un petit garçon de 4 ans qui se masturbe 10 fois par jour. Mais comme c'était un petit garçon qui posait beaucoup de problèmes, qui avait beaucoup de comportements obsessionnels, d'être passé sur la masturbation, finalement, ça allégeait le travail de l'équipe, parce qu'il avait, il pouvait faire ça tout seul dans son coin. Mais en fait, ça, c'est un comportement problématique dans le sens où c'est un appel à l'aide de l'enfant. Hein, c'est un comportement qui dit je suis très très angoissé, c'est-à-dire que la masturbation compulsive chez les tout-petits, ça va être ça, hein, ça va être c'est un anti-stress en fait. Donc c'est simplement une façon d'alerter les adultes sur le fait qu'il y a beaucoup de questions qui travaillent cet enfant. Et donc dans ce guide, on a essayé de donner une espèce de grille de lecture pour les enfants de maternelle, de primaire et les jeunes collégiens pour savoir quels sont les comportements qui nécessitent de s'inquiéter et de faire appel à une aide professionnelle.
Il faut savoir en parler et pouvoir en parler parce qu'il faut pouvoir aborder cette question avec des mots qui peuvent paraître un petit peu difficiles à prononcer avec des tout petits enfants. Mélanie Dupont, psychologue à l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel Dieu, est-ce qu'il faut mettre les pieds dans le plat ?
Oui.
Il faut mettre les pieds dans le plat, mais avec un langage tout à fait adapté. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas s'adresser de la même manière à un enfant de 5-6 ans qu'à un adolescent qui a 14-15 ans. Donc, c'est d'en parler simplement, d'en parler, vous le disiez bien, c'est aussi d'en parler avec un adulte. On va voir, l'enfant va voir en tout cas qu'il n'y a pas de problématique. C'est-à-dire qu'un adulte qui va en parler tout tremblant et en disant « Qu'est-ce qui se passe? Je veux parler de la sexualité. » C'est pas la peine. C'est bien ce qui était dit dans le reportage. Donc, mettre les pieds dans le plat, en parler simplement, mais en parler simplement de la sexualité, de la relation à l'autre, ce qui était dit aussi dans le reportage. Cette fameuse relation à l'autre. Ce qui fait trauma dans la violence sexuelle, c'est que oui, il y a du sexuel. Par contre, c'est cette question relationnelle, du trauma relationnel. Donc, c'est de là qu'il faut, en fait, c'est ça qu'il faut parler. Cette question, effectivement, de relation à l'autre.
Et à partir de quel âge ?
Tout petit. C'est-à-dire que ça fait partie de l'éducation. Moi, je crois que ça fait partie des choses de la vie, comme on apprend les accidents de la route, comme on apprend aussi à ne pas toucher le four quand il est chaud. Enfin, c'est toutes ces choses-là, il faut en parler. Plus ça va être dans le langage courant, moins ce sera un problème, et notamment pour les enfants, mais aussi pour les adultes.
Donc à tous les âges de la vie, il n'y a pas de début, même si évidemment il faut, on le répète, hein, adapter son discours avec les mots par exemple qu'utilisent les enfants. Ce qui peut nous aider aussi, ce sont les livres. Et c'est vrai que Bayard et plein d'autres éditeurs proposent aujourd'hui des livres qui abordent cette question. Alors on va reparler des contes, mais aussi sous forme de guide. Ça correspond à une demande du public, Delphine Solière.
Ça correspond, je pense, à un besoin de communiquer que nous avons très fortement sur ces questions-là, parce que depuis plus de 20 ans qu'on travaille là-dessus, hein, on avait fait le premier petit livre pour dire non dans les années 90 avec Astrapi, et qui parlait effectivement ce qui était très bien dit dans le reportage, où est-ce qu'on était capable de dire « ça, j'ai pas envie ». Et en fait, ce qui me frappe, parce que moi ça fait longtemps que je travaille sur ces questions-là, c'est que finalement, ça change peu. Ça change peu, même si nous sommes nombreux effectivement à proposer des supports. Et il faut des accidents médiatiques pour que finalement on se réveille et on se dise comment mieux en parler avec des enfants. Il y a différentes manières, la fiction en est une. Nous, on a choisi plutôt la fonction documentaire, même si on utilise des scénarios qui mettent en scène l'avant. En fait, ce qui a été intéressant pour nous de travailler, c'est de se dire quels sont les signaux d'alerte qu'on peut faire clignoter devant les yeux des enfants pour qu'ils se disent « ça, c'est pas normal ».
Et les renforcer dans l'idée que c'est pas normal, parce que
les enfants
le sentent.
Exactement. Ils ont la perception que cette personne-là s'approche de trop près, que bien que ce soit quelqu'un de la famille, il n'a pas à rentrer, ou être gêné qu'il rentre, par exemple, quand il est dans la salle de bain en train de se baigner. Enfin, tout ce type de comportement pour lequel l'enfant sent bien qu'il y a une gêne, mais ne se sent pas toujours autorisé à dire « j'ai pas envie », parce que c'est très souvent quelqu'un qui est très proche de lui, et qui connaît bien, et qui est ce tiers de confiance, qui est soit un grand-parent, un grand frère, un éducateur sportif à qui les parents vont déléguer leur confiance.
Parce qu'il y a quelque chose de très problématique, c'est cette figure du prédateur. Alors on ne va pas parler du tout toute l'émission de Gabriel Matzneff, mais je voudrais vous faire écouter un tout petit extrait. C'est une des nombreuses interviews qu'il a pu donner à la presse dans les années 90. Ça, c'est en 90 et c'est sur notre propre chaîne France Culture. Écoutez-le.
Finalement, il vaut mieux avoir pour premier amant un grand écrivain qu'un crétin, n'est-ce pas ?
Oui, mais alors Gabriel Matzneff.
Pourquoi nécessairement je ne pourrais pas faire le bonheur de quelqu'un ? Je peux très bien faire le bonheur de quelqu'un.
Et c'est lui-même qui se défend d'être un prédateur ou un agresseur, parce que finalement, cette figure, c'est un peu dit dans le reportage, mais je voudrais qu'on y revienne, elle sert aussi à repousser loin de nous et loin des enfants, cette potentielle agression, en faire quelque chose d'un peu exotique. Mélanie Dupont sur cette question,
effectivement,
elle est toujours présente.
Toujours. Alors, on voit quand même une évolution. C'est vrai que les deux, enfin, il y a deux points que la recherche actuelle a mis en exergue, à savoir quand même que on commence quand même à dire que oui, c'est plus la prévention qui était du type c'est l'inconnu dans la rue qui va venir. Ça quand même, on arrive à dépasser cette représentation-là. Par contre, on se rend compte, notamment les parents, qu'ils ont une bonne représentation, enfin une assez bonne représentation de ce que sont les violences sexuelles. Par contre, ils ne mettent pas en place les comportements qui sont adaptés par rapport à ça, en gardant en tête que de toute façon, leur enfant est moins à risque que les autres. C'est ça qui est problématique, c'est qu'on arrive à avoir une bonne représentation, mais par contre on se dit que ça va pas nous concerner, nous. Et de la même manière sur la pédophilie, c'est un des sujets, c'est le sujet tabou,
où les parents disent bien, ils ne peuvent pas en parler. Ils peuvent parler de suicide, ils peuvent parler de relations sexuelles, ils peuvent parler d'avortement. Par contre, la pédophilie, c'est pas possible. Avec la préoccupation, justement, de vous dire, on va traumatiser les enfants. Ce qui n'est pas le cas. Vraiment pas.
Et l'idée que l'enfant peut être une potentielle victime, mais peut être un potentiel complice, témoin passif, agresseur, ça, elle n'est dans la tête d'aucun parent. Très peu de parents, bah non, Sébastien Brochot.
C'est pas agréable de penser que son enfant peut être potentiel auteur de violences sexuelles, effectivement. Mais l'apprentissage du consentement, il fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut apprendre à l'enfant que les gens n'ont pas à rentrer dans son espace d'intimité et qu'il a le droit de repousser, de se révolter, même qu'il doit se révolter. Mais il doit aussi apprendre cette frustration, ce truc insupportable qui est que l'autre n'est pas à notre service et qu'on n'est pas tout puissant. Et que l'autre, il a le droit de dire « bah non, j'ai pas envie que tu me touches ». Ça, c'est compliqué à appréhender, compliqué à accepter.
Et ça aussi, ça commence tout petit. C'est ce que disait donc Walter Albardier et non William dans le reportage. Alors, ce qui commence tout petit, c'est les lectures, les contes. Les lectures, au départ, on les écoute et puis ensuite, on lit tout seul. Ces textes sont très importants. On le voit, ça continue toute la vie. D'ailleurs, le succès des livres qui évoquent ces questions. Pour les livres pour adultes, hein, je pense à My Absolute Darling, qui est un best-seller absolu, L'Empreinte d'Alexandria Martano-Lesnevich, un livre que je vous conseille fortement, il est absolument passionnant, mais vraiment, à la fois sur la position de la victime et puis sur la position d'essayer de comprendre et comment les pédophiles ne sont pas aidés, on y reviendra. La littérature, donc. Pour les petits, ça commence avec les contes et puis cette morale du petit chaperon rouge qui n'est pas tout le temps là, tout le temps présente dans tous les livres, mais qui est extrêmement intéressante. On voit bien ici que de jeunes enfants, surtout de jeunes filles, belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens. Et je saute quelques lignes. Mais hélas, qui ne sait que ces loups doucereux de tous les loups sont les plus dangereux. Donc, on alerte déjà avec Perrault les enfants sur ce danger. Pour vous, qui êtes professeur de français, Gabriel Tulou, et vous qui écrivez aussi ces textes, comment on peut s'en servir? Et comment on peut s'en servir avec des enfants, des adolescents, puisque vous enseignez plutôt auprès d'adolescents?
En fait, ce qui est très intéressant dans le travail d'un professeur de lettres, et c'est pour ça que j'ai choisi cette discipline, moi, au départ, c'est que je me suis dit, à partir des textes, on va pouvoir dire plein de choses. Et c'est vrai que moi, je ne reçois jamais une parole qui est directe comme celle que peuvent recevoir les différentes personnes qui sont dans les associations. Moi, je reçois une parole qui est une cage, pour cage de résonance, un texte. Et tout notre travail, c'est aussi de rapprendre qu'est-ce que c'est que l'interprétation d'un texte. Parce que finalement, être victime, c'est toujours une question d'interprétation. Une question d'interprétation de la part de la personne qui va recevoir la parole, mais aussi pour soi en tant que victime, ce que j'ai vécu, est-ce que ça fait de moi bien une victime? Est-ce que je suis subjective? Est-ce que je suis objective? Voilà. Et en fait, je crois que le travail que moi, je peux faire avec les élèves, c'est de les faire réfléchir à des textes, réfléchir à l'interprétation de ces textes. Évidemment, les contes, c'est merveilleux pour ça. La morale, alors avec le petit chaperon rouge, c'est terrible. On est quand même dans une morale où on explique que finalement, le petit chaperon rouge n'aurait pas dû désobéir. Et encore une fois, elle est, en tout cas dans cette première version, les frères Grimm vont apporter aussi autre chose. Mais c'est vraiment ça, c'est à la fois d'apprendre à regarder un texte et peut-être aussi de se servir soi-même de la fiction, de la rédaction, pour donner une parole qui est difficile, avec des mots trop crus dont on parlait il y a quelques instants.
Alors bien sûr, l'obéissance, c'est ce dont se servent les adultes qui commettent des atteintes sexuelles, atteintes qui peuvent aussi avoir lieu entre enfants, d'adolescents à enfants et entre adolescents. L'interprétation, finalement, c'est passionnant parce que tout est sujet à interprétation et c'est bien aussi ce qu'essayent de faire ceux qui commettent des agressions, c'est de réinterpréter l'agression en quelque chose qui n'en serait pas une. Et tout le travail finalement de celui ou celle qui l'a subi, c'est de formuler autrement cela. Est-ce que quand les élèves s'expriment, écrivent, est-ce qu'ils peuvent aborder ces sujets? Gabriel Tulot.
Alors, il les aborde dans le cadre du cours de français. Ils vont les aborder sans s'en rendre compte, souvent, sur des réactions très vives à des textes qu'on peut leur montrer ou même des images. Mais ça sera peut-être parce que je suis enseignante aussi et que je n'ai pas la même, je suis pas le relais que serait par exemple une psychologue scolaire ou une infirmière. Donc ils savent aussi, ils filtrent leurs paroles très naturellement. Finalement, les paroles les plus crues ou les plus directes que j'ai pu recevoir, c'était hors cours. C'était parce que on se rend compte, je raconte de cela. Bien sûr, dans mon livre, je me suis inspirée de faits réels. Et puis j'ai ensuite injecté la fiction, mais on voit un élève qui dort longtemps, qui écrase vraiment en classe, et on comprend pas parce que c'est un élève qui d'habitude participe, enfin une élève en l'occurrence. Et puis on questionne à la fin de l'heure, et c'est là que on va recueillir une autre parole. Cette élève ne pouvait pas dormir chez elle, il y avait une difficulté parce que elle avait un petit copain, mais que les parents n'étaient pas d'accord et qu'elle pouvait pas rentrer chez elle. Et on tire le fil, et c'est long. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que ces élèves, on les voit souvent, moi je les vois presque tous les jours, et que au fur et à mesure, la confiance se fait. Mais c'est vrai que je distingue deux paroles. Celle qui est la réponse à ce que le professeur attend, et un discours, j'ai envie de dire, de femme à jeune fille, qui peut se libérer et vers lequel, moi n'étant pas experte, je vais toujours rediriger ce discours-là vers les personnes qui sont expertes dans le cadre du collège, mais aussi en dehors, puisqu'on fait souvent appel à des associations.
Pourquoi vous avez décidé d'aborder cette question dans ce livre, sauf que c'était des enfants, la question des violences entre adolescents
Oui, puisque le roman raconte dans sa première partie un viol sur mineur, une jeune fille, Fatima, qui va porter plainte contre 8 élèves. Et ce que j'ai voulu raconter, c'était la façon dont les adultes de l'établissement réagissaient à ça. Et la question de leur responsabilité. Quelle est la responsabilité administrative d'un chef d'établissement? Quelle est la responsabilité morale d'un parent dans ces cas-là? Qu'il soit parent de victime ou qu'il soit parent d'un des suspects de viol. Et ce que je voulais montrer, voilà, c'était dans une sorte de kaléidoscope, un petit peu toutes ces visions, toutes ces ondes de choc que provoque un tel événement. Pourquoi en avoir parlé? Parce que quand je suis arrivée, moi, enseignante en Seine-Saint-Denis, c'était un monde qui n'était pas tout à fait le mien, et que j'ai mis très longtemps, en fait, avant d'apprendre. J'avais très envie d'apprendre à regarder et entendre ces enfants, mais ça met du temps. Et au bout d'un moment, je crois que j'ai fini par entendre des choses dans leur discours, et que c'était lourd, et qu'il a été nécessaire à un moment donné de poser ces paroles-là pour moi aussi, et puis pour réfléchir, et sous la forme d'un roman, parce que le roman permet de poser des questions, et que j'ai pas les solutions, et que c'est pour ça, sinon j'aurais fait un essai, mais non, c'est un roman parce qu'il est important de poser des questions, même quand on n'a pas les solutions.
Mais c'est la force de la fiction sur ces questions, c'est de pas proposer de solutions, ni même de réponses. Et en préparant cette émission, j'ai pensé à une fiction que j'aime beaucoup, c'est le film Le Nom des gens, et ça nous ramène à une question que vous posiez tout à l'heure, Delphine Solaire, sur une forme de surplace, finalement, que fait la société, puisque ce film a déjà plus de 10 ans.
Mais heureusement, on rencontre Monsieur Boyer. Il propose de me donner des cours de piano. J'ai pas connu la guerre, j'ai pas connu le racisme, mais je vais connaître les cours de piano avec Monsieur Boyer. Car en fait, on fait très peu de piano pendant les cours de Monsieur Boyer. Pendant 2 ans, ma vie devient palpitante parce que je dois rien dire à mes parents. Quand je leur avoue enfin la vérité, mon père décide de tuer lui-même Monsieur Boyer, car il n'a pas confiance dans la police. Monsieur Boyer déménage le jour même, sans laisser d'adresse. Plus personne ne reparlera des cours de piano avec Monsieur Boyer dans les années qui suivent.
Ce chiffre, 5500 enfants ont été victimes d'abus sexuels l'année dernière dans notre pays, la France.
Mais au début des années 90, le tabou familial devient une obsession nationale.
Marc Dutroux avait déjà été condamné pour séquestration en...
Et c'est dur de trouver un programme inoffensif.
Maurice Papon arrive au palais de justice à bord d'une voiture...
Voilà, avec une pointe d'humour noir dans ce film de Michel Leclerc et Baya Kasmi, on entendait la voix de l'actrice Sarah Forestier. ce relatif sur place, même si il y a quelques avancées, cette surdité, en fait, elle est, elle reste là et elle m'interroge, elle nous interroge, puisque il y a ces publications, ces films, quand même de plus en plus de victimes qui ont pu en parler, sinon être écoutées. Comment est-ce qu'on peut se l'expliquer, Delphine Solière?
Alors déjà, il y a quand même une évolution parce qu'on entend la voix de Jean-Marie Cavada qui parle de 5000 victimes d'actes de violence sexuelle. Et aujourd'hui, il y a à peu près 20 000 enfants, je me trompe de chiffre. Il y a à peu près 20 000 plaintes par an. Donc on a quand même une progression des plaintes qui est importante. Et on estime qu'il y a à peu près 200 000 enfants qui seraient victimes par an de tout acte de violence sexuelle confondu. Donc aujourd'hui, on a une approche qui est plus précise et donc on arrive à dénoncer plus facilement. Ce qui reste le plus compliqué, et je l'ai vécu quand on a travaillé sur ce projet de livre, c'est les violences sexuelles dans la famille et particulièrement avec les grands frères ou les grands cousins. Enfin, quand c'est un adolescent, ça reste encore de l'ordre de l'impensable. Et même, pour tout vous dire, au sein de ma maison d'édition, il y a eu des grandes discussions pour savoir si on publierait ce scénario ou pas, si c'était pas trop choquant.
Mais
donc ça reste difficile.
Pardon, je réagis comme ça. Alors que, enfin, d'après tout ce qu'on lit, c'est quand même une part ultra importante des atteintes sexuelles sur mineurs.
Tout à fait. Mais on arrive à penser que l'oncle ou le grand-père, parce qu'il est plus âgé, pour plein de raisons, se laisse aller, et voilà, que votre fils de 13 ans ou 14 ans aille toucher son petit frère ou sa petite sœur. Et ça, c'est pour beaucoup de parents, ça reste insupportable, vraiment insupportable.
Sébastien Brochon.
Oui, je rajouterais qu'il y a un dernier tabou encore, c'est la femme auteure de violences sexuelles. Hein, c'est-à-dire que sur les dernières enquêtes de victimation, alors pas en France, mais dans les autres pays occidentaux, on est autour de 20% à peu près des violences sexuelles sur enfants, sur prépubères, qui seraient le fait d'auteurs, autrices, femmes. Les femmes aussi agressent, donc ça peut être aussi la grande sœur, la maman, la tante. Voilà. Et les femmes peuvent agresser d'autres femmes et les hommes d'autres hommes. Voilà, ça marche dans tous les sens.
Alors, quelle peut être l'aide ou en quoi peut constituer une libération de la parole le fait que ce sujet soit abordé à la fois dans des films et des chansons? Je vous pose la question, mais après, petite pause.
C'est incroyable ce Gilbert.
T'oublies pas, c'est Gilbert qui vient me chercher.
Gilbert !
Merci d'avoir ramené ma petite, mon beau,
je t'en prie.
C'est Gilbert, il part à la montagne, il propose d'emmener Odette.
On va demander Odette ?
Bah non, c'est nous ses parents, c'est à nous de décider pour elle.
Je me demandais si tu voudrais pas jouer à la poupée avec moi. Par contre, tu le dis à personne.
Vos parents ont jamais eu de doute.
Ah non, se méfie pas de ses proches, docteur, leur fait confiance.
Hé, hey, petit bébé, il faudra se taire, ouais, même si papa frappe ta mère, ben il faudra s'y faire. Je sais qu'il fait mal, même quand il s'en va, mais c'est tout à fait normal, car papa a les plus gros bras. Et si monsieur louche sur toi, il faudra se taire pendant et après que monsieur te touchera. Chut, chut, il faudra se taire, c'est dur, ouais, mais il faudra s'y faire. C'est bien fait pour papa, tu n'aimeras pas quand papa la tapera, elle criera ah, ah, ah. Car il se fâchera encore une fois et il te fera ce qu'on lui faisait. Et il te dira que c'est ta faute à toi, que les grands hommes mâles ne pleurent pas, mais qu'ils se battent, enfin battent leurs femmes et surtout leurs enfants, et tu pleureras. Oui, c'est pas grave, et tu oublieras. Tu verras, tu feras do, do, enfant, do, bébé dormira bien.
Voilà une très émouvante chanson de Stromae, elle date de 2010. On a aussi entendu un extrait du film Les Chatouilles qui est sorti en DVD, qui était sorti au cinéma en 2018, film dans lequel la danseuse Andrea Bescon raconte son histoire. Là, c'était un ami, un proche de la famille. Et puis cette étrange chanson, bon, sur laquelle on doit quand même revenir, qui est un peu une parodie, enfin je sais pas, c'est un personnage qui s'appelle Andy, une jeune fille qui chante comme ça, c'est la chanson du consentement et ça a fait des millions de vues sur YouTube.
4 millions de vues, ouais, sur les réseaux sociaux.
Sébastien Bouchaud, donc c'est ça un message de prévention aussi.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les ados, c'est aussi bien de leur parler de prévention sans faire une tête de 3 pieds de long. Hein, on peut avoir une approche positive du consentement. Le consentement, c'est pas le viol, les agressions sexuelles. Le consentement, c'est la vie de tous les jours. Et le consentement aux relations sexuelles, c'est juste un fondamental hein, dans l'apprentissage. Et donc cette chanson, effectivement, on l'a écrite pour qu'elle soit une parodie des chansons des années 80 avec ce texte.
Je ne reconnais même plus les années 80, je crois, dans cette chanson, qui est très drôle. Elle nous a beaucoup fait rire avec Avril Ventura et avec Philippe Baudouin, je veux dire, quand on a préparé l'émission, et elle reste beaucoup dans la tête aussi.
Oui, c'est l'objectif.
Autre problème. Mélanie Dupont, vous me disiez en écoutant ces extraits que tout de même, on en parlait de mieux en mieux, à la fois dans les chansons, dans les films, qui avaient comme une manière pour aussi les journalistes qui abordaient ces questions de prendre leurs responsabilités.
Tout à fait. Est-ce que là où on trouve et on constate une vraie évolution très positive et constructive, c'est qu'on peut en parler alors peut-être moins dans les situations médiatiques où là on voit l'émotionnel qui est à son comble, mais dans le reste au niveau cinéma, au niveau musical, on a vraiment moi je suis vraiment étonnée, ils ont forcément des consultants psychologues et psychiatres pour pouvoir en parler extrêmement bien. Donc je me dis que c'est là où on sème des graines, parce que ce sont tout, à la fois les adultes, à la fois les adolescents, regardent ces films et ces séries, et donc se forment à ce que sont les violences sexuelles.
Est-ce que ça vous aide, vous, en tant que professionnel, dans votre travail ?
Dans les psychothérapies, on utilise tous les outils dont on a à disposition, donc notamment musique et film. Donc il arrive même maintenant dans l'enseignement d'utiliser des petits extraits de films pour montrer aux étudiants, pour montrer aux professionnels, parce que ça a toujours beaucoup plus d'impact aussi que... Moi, psychologue, je le dis, bon, c'est ma formation. N'empêche que c'est aussi dit, c'est vulgarisé à ce point-là. Ça veut bien dire que ça existe et que c'est comme ça.
Et je voudrais aussi parler du magnifique livre de Claude Ponty. Là, ça s'adresse aux plus petits. Mon amour. Et là, c'est pas théorique, c'est pas démonstratif. C'est une mésaventure qui arrive à une enfant imaginaire avec quelqu'un qui lui fait des choses qui ne sont pas sexuelles. Ce n'est pas dit comme ça. C'est vraiment à hauteur d'enfant. Et je crois que les enfants comprennent très bien ce livre et ce qui est sur le consentement, tout à fait sur le consentement. Cette question, est-ce qu'elle est arrivée dans les collèges et les lycées Gabriel Tulou avec MeToo par exemple, avec ce moment où on a commencé à vraiment parler de ce qu'on appelle la zone grise, des questions de consentement, comment elle est abordée par vos élèves, j'allais dire vos adolescents? Pour vous, ça reste des élèves?
C'est des adolescents, mais au troisième, c'est des élèves adolescents. on fait beaucoup venir des associations. Je me souviens d'un dispositif que j'avais adoré avec les élèves. Il s'agissait d'un théâtre forum. En fait, des acteurs jouaient des situations qui pouvaient être justement perçues comme anormales, tout en étant malheureusement très quotidienne. Et on demandait aux élèves, est-ce que vous auriez fait ça? Et on invitait les élèves à venir prendre la place des acteurs et à réagir comme il faudrait réagir. Voilà. Et mais encore une fois, on passe encore par le biais de fiction. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est le genre de choses qui permet d'en parler avec les élèves. Ça reste très compliqué, hein, de parler du consentement avec les élèves, même des troisièmes. Déjà, de parler de sexualité reste très compliqué quand on aborde des textes qui sont des textes des grands classiques autour de l'amour, ou même des... Là, j'étudiais un passage de Médée, de Laurent Godet, voilà, ça pose. Mais madame, il sait bien de Sade ou d'Antigone avec Aimon, mais il parle vraiment d'amour. Mais oui, vous avez compris. Si vous posez la question, c'est bien que vous avez compris. Et à côté de ça, on observe, donc c'est une sorte de pudeur à évoquer la question, et en même temps une hypersexualisation du dialogue, du langage en permanence, qui est vraiment assez violente en fait. Moi j'ai vu vraiment une évolution pour ça.
Dans les invectives, les insultes.
Les insultes, mais pas que. Un faillot est devenu un suceur. Quand on rend une belle copie à quelqu'un, il m'est arrivé d'entendre au lieu de t'es content, as-tu joui? Voilà, cette façon dont, si on n'y prête pas attention, dont la sexualité vient, mais de manière détournée et parfois du coup très négative, dans le vocabulaire des élèves. Là aussi, c'est notre rôle de professeur. Là, pour le coup, je me sens plus sur un front direct pour tirer des sonnettes d'alarme, replacer les mots à leur place, justement, et faire qu'ils prennent aussi conscience. De la résonance et de l'écho des mots, de la façon dont ils peuvent atteindre et blesser, surtout d'adolescent à adolescent.
Sébastien Brochot.
Oui, c'est très important de leur apprendre les vrais mots, effectivement, parce que le jour où ils ont une question à poser, une question intime, s'ils n'ont pas les vrais mots, ils peuvent se sentir un peu dépassés par la situation, parce qu'ils ne peuvent pas dire des gros mots à un médecin, et puis ils vont avoir honte d'employer des mots de bébé.
Mélanie Dupont.
Oui, c'est tout le paradoxe. Et c'est là aussi où on est un peu perdu face aux adolescents, parce qu'on se dit qu'ils ont ce discours hyper sexualisé. Sauf qu'effectivement, ils ne connaissent rien de ce que c'est la sexualité. Et alors, pour travailler avec des médecins, pédiatres, ils ne savent rien de ce qu'est l'anatomie, leur propre anatomie. Donc, c'est là où nous, les adultes, on est très, très perdus, déstabilisés, parce qu'à la fois, ils vont nous afficher cette hypersexualisation, alors même qu'ils ne la connaissent pas, la sexualité.
Aujourd'hui, parmi les axes de prévention du CRIAVS, par exemple, on parle de prostitution des mineurs, de porno. Ce sont aujourd'hui, alors sans dire que c'est, je sais quel caractère inquiétant peut avoir cette émission. Alors, c'est pas tout le monde, tout le temps, partout, en toutes circonstances, mais c'est des sujets dont il faut absolument s'emparer aujourd'hui. Est-ce que, si on n'a pas de formation, si on n'a pas de ressources telles que les vôtres, il y en a d'autres, hein, les adultes sont trop démunis pour ne serait-ce que voir ce qui peut se passer devant leurs yeux?
Oui, déjà, il faut être à l'aise avec le sujet pour pouvoir le voir. Hein. Si on a des blocages nous-mêmes, ça ne nous aidera pas. Après, il y a effectivement aujourd'hui, grâce à Internet, des tas de supports de prévention qui sont passionnants. Nous, on a créé le site violencesexuelles.info. Il y a des vidéos, il y a des outils pour les professionnels, mais aussi pour les parents, pour être à l'aise avec cette thématique-là. Et plus on en parlera, moins il y aura de victimes.
Plus on en parlera, moins il y aura de victimes. Un mot sur les mots, parce qu'on a dit oui, il faut bien choisir les mots. Bah, du coup, je vais vous poser une question extrêmement concrète. Comment on évoque les organes génitaux, par exemple avec des tout petits enfants? Est-ce qu'on emploie des mots anatomiques, des mots spéciaux?
Vulve et pénis, c'est très bien.
À 2 ans.
Oui. Oui, l'enfant connaîtra ces mots-là. Après, faut être à l'aise avec ce mot, parce que si nous-mêmes on est mal à l'aise et qu'on dit de la vulve, on va juste transmettre le malaise.
Alors dans ce cas-là, il faut trouver un autre mot, Mélanie Dupont.
Non, mais je voulais réagir à votre propre réaction, parce qu'on voit bien que même vous-même là,
bien sûr, c'est pas forcément intuitif d'utiliser un tel vocabulaire avec un tout petit.
Mais c'est là où on voit cette différence de langage, c'est-à-dire que là, on a le langage adulte avec toutes les représentations adultes qu'on y met. Il faut savoir qu'un enfant n'a pas le même langage. On parle le français, certes, mais on n'a pas les enfants n'ont pas ces représentations-là. Donc c'est vrai que c'est là où c'est intéressant de parler simplement, sans avoir d'émotions effectivement débordantes, d'être au clair avec ça, et ce qui va permettre à l'enfant d'être au clair avec lui-même aussi. Hein.
C'est tout à fait
Delphine Solière.
L'intérêt d'utiliser des livres documentaires, alors pour le coup, pas du tout ce que j'ai fait, mais qui sont vraiment des livres qui apprennent ce qu'est le corps humain. Ce que nous, on a eu, pour le coup, moi qui suis senior, j'ai eu ça dans ma jeunesse, et je trouve qu'on trouve moins aujourd'hui de livres tout simples qui abordent les différentes parties du corps, à quoi ça sert, les muscles, ça, mais aussi le pénis, le zizi, et puis ça peut permettre aux parents de dire, et toi, tu l'appelles comment? À l'école, tes copains et copines, ils appellent ça comment? La zézette, la foufoune, le je sais pas quoi. Et ça permet justement de travailler sur le langage. Et ben voilà, tu vois, le nom scientifique, ça s'appelle comme ça. Et du coup, le support d'un ouvrage est vraiment hyper bénéfique pour ça. Parce que le parent n'est pas tout seul, si vous voulez. Il n'arrive pas avec son idée. Bon, allez, aujourd'hui, je suis bon, je vais parler des choses du corps. Quand on laisse un livre sur la table de la salle à manger, il dit, bah, tiens, j'aimerais qu'on regarde ensemble ce livre sur le corps, mais qui met le sexe dans la globalité du corps. Parce que c'est aussi quand on fait qu'un focus sur les organes génitaux, on oublie que c'est une partie d'un tout.
Je dois dire que les autres invités acquiescent, évidemment, et en même temps, il y a cette question de l'intimité, et ça aussi, on doit l'apprendre. Est-ce que là, il y a des ressources, à la fois dans les livres, ou des choses qu'il faut dire, ou d'autres moins, sur ce que c'est que son intimité, la manière dont on peut avoir envie de la protéger, ou de l'exposer, après, enfin, chacun fait ce qu'il veut, Mélanie Dupont.
Oui, mais c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est cette fameuse... sphère, en fait. Vous savez, moi, au niveau des films, j'aime beaucoup Dirty Dancing. Je suis désolée. Mais parce qu'à un moment donné, on voit
moi
justement
aussi,
cette question.
On va se l'avouer entre nous. Je ne m'attendais pas à en parler.
Il y a à un moment donné mon espace. Vous vous souvenez, elle dit bien, c'est mon espace et
ouais,
ton
avec
espace.
Les bras. C'est, je vois très bien la scène.
C'est exactement ça. Et donc ça, t'es tout petit, en fait, on peut l'apprendre. Et ça revient à ça, l'intimité. Tout ce qui te gêne, tout ce que tu n'aimes pas, enfin, et puis c'est à toi, ça t'appartient. Mais il faut aussi que là, on n'a pas de généralité sur l'intimité, parce qu'on voit bien des modèles d'éducation très différentes. Mais je crois que ça passe aussi par ça.
Et la question d'intimité, elle est compliquée avec les adolescents qui sont connectés en permanence, qui sont sur les réseaux. C'est-à-dire que, de toute façon, il faut aussi travailler sur ce qu'il faut montrer ou pas montrer, ce qu'on a envie de montrer ou pas montrer. Mais en tout cas, je crois que les limites ont été vraiment repoussées à ce niveau-là et que il y a sans doute un travail immense à faire autour de l'image.
Sébastien Bouchot, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Gabriel Tulou?
Oui, effectivement. C'est, je pense que c'est très compliqué d'être adolescent aujourd'hui avec ce mélange de l'intime et de l'extime. Alors, je pique ce mot psy, hein, mais j'adore ce mot extime. Hein, tout ce qui est public, c'est difficile, je pense, de se construire en mélangeant le public et le privé. Comment est-ce qu'on peut se construire quand on montre tout à l'autre, et surtout quand la preuve d'amour par excellence aujourd'hui chez les adolescents, c'est un nude, c'est une photo de soi nu.
Est-ce que de ce fait, poser de bonnes bases dans les premières années, ça, ce qui ne veut pas dire qu'on ne continue pas à en parler après, évidemment, est encore plus crucial aujourd'hui, Mélanie Dupont? Et question subsidiaire, est-ce qu'on devrait en parler? On le fait d'ailleurs hein, parfois dans les crèches, les écoles maternelles.
Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire.
C'était pas vraiment une question.
Mais pour le coup, enfin, en parler, oui, enfin, en parler, enfin, ce que vous dites là, c'est exactement ça, c'est en parler dès le début. Mais c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que la question des violences sexuelles, et ça revient à cette question de ne pas parler que du pénis et de parler de la globalité du corps humain, c'est ne pas de centraliser que sur les violences sexuelles. Le débat actuel, il est bien au-delà de ça. C'est vraiment de pouvoir parler, oui, du consentement, de la place dans la relation, enfin, de comment j'interprète aussi les signes de l'autre, comment moi je peux exprimer mes propres signes. Et ça, c'est un apprentissage au quotidien, mais dans toutes les sphères de la vie.
Est-ce que cette écoute, dans un monde où on vient de le dire, hein, on est beaucoup derrière les écrans, est-ce que les signes donnés par d'autres personnes, des signes du visage, des approbations, de s'écouter vraiment hein, quand on est en présence, alors qu'on est tellement habitué à avoir des interactions et à avoir des interactions à distance? Sébastien Brochot.
Oui, effectivement, c'est un apprentissage. Il y avait un très bon article dans Le Monde qui expliquait qu'on avait beaucoup de mal à se toucher. Il y a aussi le toucher, hein, il y a le regard. Moi, je me souviens d'un psy qui expliquait qu'il était en train de développer une application sur Android pour que des psys parlent à des ados. Ça se fait à travers deux téléphones mobiles parce qu'il y a beaucoup d'adolescents qui ont de très grandes difficultés à regarder, à tenir le regard avec le thérapeute. Et donc, il faut trouver des outils pour s'adapter à ça. Mais ce que vous disiez, ça commence à la crèche, mais ça commence encore avant. Ça commence avec les parents, parce que c'est d'abord aux adultes de faire de la prévention des violences sexuelles sur les enfants. Hein. Ça n'a pas à reposer sur les épaules des enfants. Et à partir du moment où les parents apprennent qu'ils attendent un enfant, c'est là qu'on commence à travailler cette prévention.
En parler à chaque occasion possible, à tous les âges de la vie. Sébastien Brochot, juste si vous voulez bien nous rappeler le site internet.
Violencesexuelles.info et pour les adolescents 15-25 ans, c'est consentement.info.
Voilà, et de mon côté, je vous rappelle que toutes les références qu'on a données seront grâce à Avril Ventura à la page de l'émission sur le site de France Culture. Et puis je vous annonce que le temps du débat se consacrera à une émission mardi à cette question. Lundi, crime sexuel, qu'est-ce qui crée le sentiment d'impunité? Donc dans la continuité de cette émission, j'espère qu'elle aura pu être aussi utile et vous avoir fait réfléchir, chers auditeurs. On passe à la dernière rubrique, la leçon de choses de Sophie Bobert, après une petite pause.
Quand les lumières brûlent tout, que la nuit fière s'en fout, si tu voulais
avec la belle voix de Pomme, je sais pas danser, que nous passons donc à cette leçon de choses aujourd'hui consacrée à l'auteur de bande dessinée Jacques Ferrandez, des rives de l'Algérie à l'arrière-pays niçois, retour sur de profondes empreintes politiques et familiales.
Mes parents ont décidé de quitter l'Algérie juste après ma naissance, donc je crois que je dois avoir encore le billet d'avion que mon père avait réservé pour ma mère et moi, et ma sœur qui était née un peu avant moi. C'était au mois de mars 56, alors que j'étais né en décembre 55, vous voyez, donc ça ne me donne pas l'occasion d'avoir des souvenirs, si ce n'est des souvenirs reconstruits après et qui ont nourri toute mon œuvre, si on peut dire.
Ils étaient très clairvoyants, vos parents, ou très prudents de quitter l'Algérie en 56, non ?
Je pense qu'il y a un peu des deux. C'est que mon père était jeune médecin et il avait vu des choses déjà sur les premiers attentats, sur ce qui était pas encore nommé la guerre d'Algérie, mais enfin, en tout cas, elle était ressentie comme telle.
Et les événements ?
On parlait d'événements, on parlait d'opérations de maintien de l'ordre, mais enfin, quand il commence à y avoir des morts et des cadavres dans la rue, vous voyez, ou des attentats, ça fait réfléchir. Et peut-être dans des conditions pas trop mauvaises, parce que mes parents ont choisi de partir, ce qui fait quand même toute la différence avec ceux qui estiment qu'ils ont été chassés de ce pays. Donc le fait d'avoir été comme ça dans une famille où ce choix avait été, entre guillemets, librement consenti, ça change tout. Donc je pense que mon père me disait, on a tourné la page, et lui, il a réécrit une nouvelle page, voilà, à Nice et sur la rive nord de la Méditerranée. Et cette page, voilà, on l'a écrite ensemble, et je continue aujourd'hui à l'écrire, mais en gardant effectivement un pied sur chaque rive. Je pense que j'étais un enfant sage, en fait. J'étais très, très intéressé par le dessin. Je dessinais beaucoup. Et quand parfois, les copains me proposaient de sortir, d'aller jouer au foot ou je ne sais quoi, je préférais rester à la maison pour dessiner parce que c'était vraiment mon truc. Je me disais, le rêve, ça serait de pouvoir être un jour auteur, dessinateur de bande dessinée. Parce que mon père était dessinateur aussi, mais lui, vous voyez, un peu l'enfance de Camus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut, quand on a la chance de pouvoir faire des études et qu'on vient d'un milieu modeste, eh bien, on fait des études sérieuses. Je ne pense pas qu'à l'époque, s'il avait dit « je veux faire les beaux-arts », on lui aurait laissé la bride sur le cou à cette époque-là. Donc il a fait des études de médecine, mais il dessinait très bien, mon père. Donc il avait une petite veine comme ça... presque de lignes claires. Quand je vois certains dessins, il adorait dessiner les voitures. Quand je vois les dessins qu'il faisait, je n'en ai pas beaucoup, mais on aurait dit les voitures dessinées par Hergé, vous voyez, ce côté comme ça très pur, avec la ligne très exacte, très juste. Et je pense que c'est peut-être le fait de me voir partir dans le dessin, ça ne lui a pas déplu au fond.
C'est ça qui vous a transmis votre père, hein, la ligne claire, hein.
Peut-être, ouais. Alors la ligne claire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui cette école, disons, de bande dessinée franco-belge, voilà, qui s'attache au trait et puis d'une manière assez dépouillée, assez...
Elle est pure, hein.
Elle est pure et qui va à l'essentiel. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plus de raconter des choses de l'ordre de l'intimiste. Enfin, j'aimais beaucoup à l'époque le cinéma suisse, le cinéma italien. Alors, le cinéma italien dans une veine plus comédie, le cinéma suisse dans une veine un peu plus sociale, si vous voulez. Les films de Claude Goretta, de Alain Tanner, des gens comme ça. Et je me disais qu'on pouvait aussi raconter ce genre d'histoire en bande dessinée. Donc, mon premier opus en solo, c'était Arrière-Pays. C'était ce qu'on appellerait aujourd'hui une BD reportage. Et c'était déjà dans le pays de Giono, si on veut. Hein. C'était des paysans. Comment est-ce qu'ils vivent, mais là c'était dans un contexte, disons, actuel de l'époque, des années, la fin des années 70, avec voilà, les histoires d'exode rural, les histoires de retour à la terre, là, plein de gens retournés à la nature avec les bouquins de Giono sous les bras. Hein, c'était...
Vous le lisiez, vous, Giono, à l'époque?
Oui, ben moi j'ai lu Colline, Regain, le Chant du Monde, bien sûr, et puis Que ma joie demeure, et puis Un de Beaumune, et puis Les Grands Chemins. Enfin, j'ai eu une grande période Giono à l'âge de 16, 17, 18 ans. Et donc, ça trottait, vous voyez, depuis un certain temps, quand même, Giono. Et puis, c'est après, en fait, quand j'ai fait mes deux premiers albums sur la vie rurale dans l'arrière-pays, que là, je suis tombé sur, effectivement, l'imagerie qui a été développée par tout ce qu'on appelait l'école orientaliste. Et là, je me suis dit, mais il y a un truc à raconter sur l'Algérie. D'abord, voilà, essayer de savoir d'où je viens, comprendre cette histoire et comment la mettre en image, peut-être justement à travers l'histoire d'un peintre qui va, j'allais dire, à son insu, être d'une certaine façon une courroie de transmission de l'entreprise coloniale, comme ça a été finalement des peintres qui allaient faire le voyage et puis qui magnifiaient les choses vues pour en faire des grandes toiles, assez celles qu'on trouve aujourd'hui au musée d'Orsay. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était la manière dont ce pays, cette conquête coloniale avait pu inspirer les artistes, les écrivains à l'époque. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est ça qui m'a permis, disons, de me mettre dans le bain et peut-être aussi d'avoir l'ambition de raconter cette histoire qui était à l'époque, en plus, en bande dessinée, pas racontée du tout. C'est-à-dire c'est un sujet qui était totalement vierge. Et comme moi, c'était mon moyen d'expression, je dis, ben, allez, allons-y, on va essayer de raconter cette histoire-là pour peut-être essayer de la comprendre et comprendre simplement d'où je viens.
Jacques Ferrandez, au micro de Sophie Bobert. Il vient de publier l'adaptation du Chant du Monde d'après l'œuvre de Jean Giono à l'occasion du cinquantenaire de la mort de l'écrivain et ses Carnets d'Orient 1830-1954 chez Casterman, qui revient sur l'histoire de la conquête de l'Algérie. Et puis, comme on a un peu de temps, on nous l'apprend, on a un petit bonus. Gabriel Tulou, qui était notre invité aujourd'hui, va nous lire un extrait de son ouvrage, sauf que c'était Des enfants, publié chez Philippe Ray.
Non, elle ne fera pas comme si de rien n'était, même si les traces sur la peau de sa fille commençaient déjà à disparaître. Plus profonde que les griffures sur son visage et sur son cou, il y avait cette plaie invisible qui avait déchiré son enfant en deux, en son milieu, cette fracture sauvage qui la rendrait peut-être incapable de jamais se rassembler à nouveau, se ressembler à nouveau, défigurée. Fatima était tombée amoureuse de ce type de 4 ans son aîné. Elle rêvait d'une belle histoire, peut-être la bonne. Il était adulé de tous. En ayant sa préférence, elle se sentait privilégiée et bénéficiait par rebond de la considération de son entourage. Les civilités furent de courte durée.
Quand au bout de plusieurs mois, elle accepta de le suivre, comme les autres avant elle, pour faire l'amour sur un matelas défoncé dans un recoin sale, toute courtoisie à son égard cessa. Elle avait craint qu'on la prenne pour une enfant si elle refusait de sauter le pas. Elle était devenue, sans transition, et en deux petites minutes et une vingtaine de coups de bassin, une fille facile. Sa réputation la précédait partout où elle mettait désormais les pieds. Elle était un fruit tapé, avarié, on n'y goûterait plus. Désormais, on y mordrait avec dégoût. C'est ce qu'avaient fait les garçons du collège. Puisqu'elle aimait ça, elle ne se respectait pas. Il n'y avait pas de raison de la respecter en retour.
Et merci beaucoup pour cette lecture, Gabrielle Tulou. On se retrouve dimanche prochain à 17h pour un nouveau numéro d'Être et Savoir ou en podcast quand vous le voulez.